France Musique.
Le journal, Olivier Denry. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est un baptême du feu pour la présidente de la commission de Bruxelles. Dans quelques heures, l'allemande Ursula von der Leyen prononcera son tout premier discours sur l'état de l'Union devant les eurodéputés. L'occasion pour elle d'en dire plus sur les objectifs climatiques de l'Europe à l'horizon 2030. En coulisses, on indique que le vieux continent pourrait s'engager à diminuer de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici une dizaine d'années. Un engagement qui aura évidemment d'importantes conséquences sur nos vies et sur celles des entreprises. Angélique Bouin nous appelle de la capitale européenne.
D'ici 15 à 20 ans, on ne pourra sans doute plus vendre de voitures essence ou diesel. Les hôpitaux, les écoles de Rome, Budapest ou encore Athènes auront été rénovées et les centrales à charbon polonaises fermées. Mais il faudra aussi que certaines multinationales soient taxées. C'est ce qu'espère l'eurodéputé vert David Cormann.
Ça veut dire qu'il faut des nouvelles ressources, des fiscalités sur ceux aujourd'hui qui ne payent pas d'impôts et sont les plus gros pollueurs. C'est la taxe carbone aux frontières, c'est la taxe sur les transactions financières, c'est la taxe sur le kérosène, des idées comme ça.
Et pour rouler électrique ou se chauffer avec le soleil, les 750 milliards d'euros du plan de relance européen sont une aubaine. Une grande partie de ces investissements accompagnera la transition énergétique, se réjouit l'eurodéputé La République En Marche, Pascal Canfin, qui préside la commission environnement.
En 2009, lors de la crise financière, on avait fait une relance qui n'était absolument pas une relance favorable au climat. Là, on a tout en main pour faire la première relance verte de l'histoire.
À condition que les 27 chefs d'État et de gouvernement s'accordent sur cet objectif de réduction des émissions, la Pologne traîne toujours des pieds et pourrait bien bloquer l'adoption d'une loi européenne sur le climat ambitieuse et espérée par beaucoup avant la fin de l'année.
En comparant les écologistes à des amis, Emmanuel Macron a souhaité avant-hier clore le débat sur la 5G. Le chef de l'État veut avancer sur ce dossier qui se fera en temps et en heure, pour preuve le lancement des enchères pour les fréquences de cette technologie mobile le 29 septembre prochain. Ce faisant, le président de la République met de côté l'un de ses engagements vis-à-vis de la Convention citoyenne sur le climat qui réclame un moratoire sur la 5G, un désaveu pointé par François Ruffin, le député de la France insoumise, qui réclame de son côté un référendum sur le sujet. François Ruffin est au micro de Julie-Marie Lecomte.
La conférence citoyenne sur le climat, les 150 citoyens avaient décidé à 98% d'un référendum sur la 5G. Est-ce que ce sont des Amish? Est-ce qu'on vit dans un pays d'Amish? Dans notre pays, d'après un sondage, 80% des Français souhaitent un moratoire là-dessus, tant qu'on n'a pas les études sanitaires, et moi j'ajoute, tant qu'on n'a pas un vaste débat démocratique sur cette question-là. La technologie, elle ne va pas de soi. Il y a des progrès qu'on peut arrêter, des progrès qu'on peut approuver. Vous regardez par exemple le clonage humain. On en est capable. Et pourtant, la démocratie a décidé de ne pas l'utiliser. Donc, est-ce qu'on veut la 5G ou est-ce qu'on ne veut pas la 5G? Ça ne doit pas aller de soi. Et que ça ne soit pas une espèce de routine. Bon, bah, puisqu'on est capable de le faire, on fait la 5G. Et puis, on prépare déjà la 6G. Puis, il y aura la 7G. Quel est le sens de cette course?
À noter également la réaction ce matin de Cyril Dion, l'un des garants de la Convention citoyenne sur le climat. Il considère que le chef de l'État s'assoit sur la démocratie en refusant un moratoire sur la 5G. Le géant suédois du prêt-à-porter ne veut plus se fournir en Chine auprès d'un fabricant accusé de faire travailler de force des membres de la minorité musulmane ouïghour. Le groupe H&M promet dans la foulée d'enquêter dans toutes les fabriques de vêtements avec lesquelles il travaille en Chine. Les Turcs, une fois de plus, pointés du doigt en Syrie. Les enquêteurs de l'ONU évoquent dans un rapport publié par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, des exactions systématiques dans les régions kurdes. Les membres de cette commission indépendante parlent, Aurélien Colli, de violations organisées des droits humains.
Afrin, Ras Al Ain, Tel Abyad, des zones à majorité kurde il y a encore 2 ans, mais aujourd'hui sous contrôle de la Turquie et des milices qu'elle a formées, entraînées et payées, notamment sous l'appellation d'armée nationale syrienne. 90% de la population kurde a été déplacée, résume Hassan, membre de la commission des droits de l'homme d'Afrin, qui a travaillé avec les enquêteurs de l'ONU pour documenter ces exactions, pillages, raquettes, arrestations arbitraires, tortures, meurtres, confiscations de propriété, une politique de terreur organisée, planifiée contre les Kurdes, mais aussi les minorités chrétiennes ou yézidis de ces régions. C'est une forme de génocide, de nettoyage ethnique orchestré par les services de renseignement turcs, poursuit le militant kurde. Les enquêteurs de l'ONU parlent, eux, de crimes de guerre et pointent entre les lignes la responsabilité d'Ankara. Leur rapport souligne aussi le ciblage spécifique des femmes kurdes. Beaucoup sont des djihadistes, avec même des membres et des slogans de Daesh dans leurs rangs. Comme les femmes kurdes les ont combattues, elles sont visées, enlevées, violées, tuées pour ce qu'elles représentent, explique cet autre militant de la cause kurde, qui a lui aussi travaillé avec l'ONU, en appelant les pays occidentaux à être beaucoup plus fermes avec la Turquie du président Erdogan.
Reportage signé Aurélien Colli. Des nuages sur l'Aquitaine, la Bretagne et le golfe du Lion. Sur le reste du pays, le soleil brillera généreusement toute la journée. Les températures iront cet après-midi de 22 à 35 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
Profitez bien du beau temps, Olivier Denré. Rendez-vous demain à 7h.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.